Vous le savez, dans Le Goût de M, les invités nous ouvrent leurs portes et nous partagent leur goût pour la culture, le design, la mode. Et si c'était à vous d'ouvrir la porte sur votre intérieur et d'accueillir des voyageurs chez vous? Vous avez une chambre en plus? Vous partez en vacances? Alors pourquoi ne pas mettre votre logement sur Airbnb, le sponsor de cet épisode? Airbnb est un moyen simple pour ne pas laisser votre logement inoccupé pendant vos déplacements. Et qui sait, cela pourrait financer votre prochaine trouvaille déco. Et si vous hésitez encore, allez sur airbnb.fr/hôte pour savoir combien votre logement pourrait vous rapporter. Partons désormais à l'écoute de ce nouvel épisode du Goût de M.
Le Goût de M. M, le magazine du Monde présente Le Goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût? Qui a bon goût? Mauvais goût? Pour y répondre, cette semaine, Le Goût de M a rendez-vous avec Inga Sompé. Elle est designer, elle conçoit donc des objets, reproduits ensuite en série par des industriels ou des éditeurs tels que le français Ligne Rosée ou le danois Hey. Parmi ses créations les plus célèbres, le canapé ruché, édité justement par Ligne Rosée, ou la petite lampe Hill, articulée que l'on peut poser ou accrocher à sa guise. Des objets qu'elle pense, dit-elle, pour des gens de 20 à 100 ans, des objets simples en apparence, mais toujours avec un caractère particulier et empreint d'une certaine poésie. Alors pour parler de son parcours, de son goût, de ses inspirations, de ce que signifie pour elle concevoir un objet, et pour profiter aussi de son caractère bien trempé, on a rendez-vous chez elle, dans le 10e arrondissement de Paris. On arrive dans une petite ruelle, un immeuble en briques qui donne tout de suite la sensation d'être à Londres, ou peut-être subitement projeté face à l'immeuble biscornu des Aristochats. On y est. Bonjour, ah ouais, c'est bien là.
Bonjour.
Inga Sompé, on est chez vous. C'est un espace qui vous ressemble ici?
Cette question, j'en peux plus, parce que comme j'ai écouté vos émissions récemment, depuis je me pose dans mon appartement, je me dis, mais est-ce que ça me ressemble ça? Je sais pas. Ça me ressemble.
Vous l'écririez comment?
Je le décrirais quand même super beau. Hein, je trouve qu'en plus des fenêtres guillotines, je pense qu'il y en a 4 dans Paris. Il a des défauts, c'est-à-dire ça ressemble pas à un appartement de magazine. Il y a plein de tuyaux partout, il y a plein de trucs qui sont un peu rouillés, qui sont cassés. Mais oui, je trouve que je suis bien lotie, bien logis.
On s'est installé dans la cuisine, agréable, clair, avec beaucoup de fenêtres, une plante sur le frigo. On s'est assis autour de la petite table à manger carrée, en bois. On a goûté les financiers qu'Inga avait gentiment achetés. On en a profité pour prendre le thé. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
Paris. Bien sûr.
Pourquoi?
Parce que j'ai grandi à Paris, que c'est mon habitat naturel.
C'est une sensation, Paris, pour vous?
Oui, c'est la sensation de quand on rentrait de vacances, de se retrouver, de sortir de la gare, c'était la gare de Lyon, et d'être à Paris, cette espèce de retour aux rues, aux affiches, qui étaient nouvelles, puisque quand j'étais petite, les vacances, c'était 2 mois et demi, on partait 2 mois et demi avec ma mère, à Saint-Tropez, 2 mois et demi à la suite. Mmh. Et donc, c'était le retour à Paris avec des campagnes de publicité qu'évidemment, il n'y avait pas avant de partir. C'est les immeubles. Puis, il faisait beau quand on rentrait. Non, c'était la perspective de rentrer à l'école. C'est ça. Moi, ma sensation hyper positive de quand j'étais petite, la rentrée des classes. Et ça m'est resté.
Vous adoriez?
J'adore encore. Même dès le mois d'août, je ressens une excitation, mais vraiment cette excitation qui vous prend au ventre, qui fait que je me dis, bientôt c'est septembre, ça va être la rentrée, on rentre à Paris. C'est mon mois préféré.
Vous avez grandi à Paris, donc ça ressemblait à quoi l'appartement ou la maison dans laquelle vous avez grandi ?
Alors, c'était un duplex dans un immeuble très ancien, une ancienne caserne, au fond d'une grande cour hyper profonde, dans le 6e arrondissement, mais un 6e arrondissement qui n'est pas l'arrondissement des chaussures de luxe de maintenant. C'était le 6e plutôt... quand j'étais petite, c'était... Je sais pas, il y avait encore des artisans dans ma cour. Et c'était un duplex dans un immeuble sans ascenseur, pas du tout luxueux, mais un duplex avec une vue très très belle sur des jardins. Plein ciel, assez biscornu, un sol totalement penché, avec des très vieilles tomates, pas des tomates rouges, mais des tomates gris, marron, vraiment des tomates extrêmement anciennes. Voilà, avec un appartement qui s'est agrandi au fur et à mesure que mes parents ont acheté des petites pièces en plus.
Il y avait quoi comme mobilier ? Parce que vos parents, je crois, enfin, vous l'avez souvent dit, ils choisissaient les choses, les objets avec soin. Enfin, c'était important pour
eux. Là où j'ai grandi, c'était ma mère qui choisissait tout, parce qu'en fait, j'habitais seule avec ma mère. Mm-hmm. C'était que des choses anciennes, qui venaient des puces. Pas de mobilier pseudo Louis XV, pas de meubles de style du tout. C'était plus entre un intérieur un peu scandinave et bohème, mais pas la rigidité scandinave où tout doit être des années 40-50. Non, c'était très simple, plutôt gay.
Votre mère, elle est danoise ?
Ma mère, alors franchement, moi je dirais qu'elle n'est pas du tout danoise. Mm-hmm. Elle est de corps, elle est danoise, mais d'esprit, elle ne peut pas faire plus français.
Donc c'est Mette Ivers, elle est illustratrice et peintre. Si vous pensez à ses goûts, justement, quand vous étiez enfant, ce que vous en perceviez, qu'est-ce qu'elle aimait, votre mère ?
Alors, ma mère aimait tout ce qui était ancien, que ce soit la peinture, la musique, les objets. C'était plus tourné vers... les objets étaient acceptés jusque dans les années 30. Après, c'était plus difficile. Enfin, bon, si, 40, 50, ça pouvait aller. Mais vraiment très tourné vers des objets simples, originaux, de qualité, pas précieux. Hein. Plus des objets quotidiens, jolis, avec un charme quotidien. Pas des pièces exceptionnelles.
En dehors des objets, qu'est-ce qu'elle aimait ?
Ma mère, c'est le dessin, la peinture, la beauté, les animaux, les insectes, la littérature.
Elle a beaucoup illustré de littérature aussi, non ?
Elle a beaucoup illustré de livres pour enfants.
Ouais, et de littérature classique aussi.
De littérature classique plus, mais ça c'était quand elle avait commencé. Mais après, elle a surtout elle a fait beaucoup de dessins pour J'aime lire. Pour l'école des loisirs, pour les éditions Attier, enfin plein d'éditeurs.
Vous disiez que vous viviez principalement avec votre mère.
Oui.
Qu'est-ce qui était important, du coup, dans votre famille
Alors, ma famille, c'est ma mère, vraiment. Je n'avais pas de cousins ou très lointains, je ne les voyais jamais. Pas de grand-mère, rien. Qu'est-ce qui était important du dessin, tout ce que ma mère ou mon père faisait était considéré comme normal. Donc dessiner, normal, lire, normal, se moquer, normal, rigoler, normal, imiter, j'adorais imiter les gens aussi, pour me moquer, normal.
Votre père, donc Jean-Jacques Sempé, célèbre dessinateur de presse, et puis qui a aussi auteur d'une trentaine d'albums. Lui, si vous pensez à lui, qu'est-ce qu'il aimait ? Qu'est-ce qui était important pour lui ?
Le jazz, les femmes. Et le dessin, évidemment, ça va sans dire.
Il y avait un objet chez lui que vous aimiez beaucoup.
Des œufs durs ?
Oui.
Mon père habitait dans un autre appartement dans le quartier, j'y allais de temps en temps. Et il y avait, c'était très déroutant comme objet, comme un œuf dur découpé en ouvert en deux, donc deux moitiés d'œuf dur, en pierre, très bien figuré, avec un cœur jaune... Et c'est vraiment un objet qui continue à me fasciner. J'adore cet objet, il est tellement étonnant. Il faut se mettre à la place de la personne qui l'a fait, qui s'est dit « Ah bah tiens, aujourd'hui, je ferais bien des œufs durs en pierre. » C'est ce genre de pensée que j'aime bien. Et le résultat est très beau.
Mais ça, justement, vous vous êtes posé cette question assez tôt, non, de comment la personne qui a fabriqué ça, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, ça a été quoi ses doutes, ses difficultés, ça a été des questionnements assez précoces.
En fait, ça découle de mon enfance, où je voyais bien mes parents qui se posaient des questions sur ce qu'ils étaient en train de faire. Est-ce que c'est bien si là, je lui mets ce chapeau là, ou alors est-ce que je mets le chien là, ou je mets pas le chien là dans mon dessin? C'était plein de questions que ma mère pouvait me poser assez quotidiennement. Qu'est-ce que tu vois dans mon dessin? Est-ce qu'il y a un truc qui va, qui va pas? Et donc, je me suis intéressée à toutes ces décisions qui sont prises sans que jamais personne se pose la question, enfin, pas souvent, de tous les gens qui conçoivent des choses, alors, tous les doutes qu'on peut avoir derrière la conception de quelque chose et qui n'apparaît pas du tout dans le résultat, évidemment. Mais ce sont ces questions-là, oui, qui m'ont intéressée. Savoir pourquoi des gens choisissent à un moment une forme plutôt qu'une autre. Est-ce que c'est dicté par un ensemble de modes, la mode qui nous imprègne et dont on ne sait pas qu'on est imprégné par la mode quand on est dedans et qui va faire que on va reconnaître un bol des années 60 plutôt qu'un bol des années 70, passe par une légère courbe changée. Savoir si on fait quelque chose parce qu'on l'a choisi ou si on est pris dans une mode sans s'en rendre compte.
Mais dans ce que vous décrivez, ça donne la sensation, c'est peut-être pas du tout vrai, mais d'une enfance dans un monde assez intérieur, en fait.
Ah oui, bien sûr. Oui, oui, j'étais très souvent à l'intérieur. Mes parents, de toute façon, ils dessinaient à leur domicile, travaillaient à leur domicile. Puis moi aussi, j'y étais, mais sinon, non, j'étais aussi beaucoup à l'extérieur. Quand on était petite, avec ma meilleure amie, on sortait tout le temps, toute seule, dans Paris. Hein.
Ah oui ?
Je la voyais il y a 2 jours. À 8 ans, moi, j'allais seule à l'école en bus à Paris. On allait toutes les deux seules se promener au Luxembourg quand on avait 8 ans. On allait au cinéma seules. C'était normal. C'était pas du tout qu'on n'était pas surveillés, hein, mais c'était normal. C'était ouais. Comme ça.
Il y avait un plaisir de manger dans votre famille?
Bah, il y avait la soupe poire aux pommes de terre, que j'ai encore faite hier, et les croque-monsieur Findus, que j'adorais, le crunch, les glaces. Mais ça, c'était mes goûts à moi. Ma mère aimait beaucoup les légumes. Maintenant, j'ai un peu évolué. J'ai plus les goûts des goûts culinaires de ma mère. Oui, très simple.
M. Le magazine du Monde présente Le goût de M.
Alors, où est-ce qu'on est, Inga, ici?
Alors, on est dans ma cuisine.
Elle ressemble à quoi, cette cuisine?
Elle est super grande. Et il y a 3 fenêtres. Il y a donc ce tuyau d'eau usée qui passe en travers de la pièce et autour duquel il y a une plante moche qui pousse, mais elle a mis tellement de bonne volonté depuis des années à survivre que je me suis dit que je pouvais pas ne pas l'honorer un peu, cette plante.
Et alors ça, c'est quoi?
Alors ça, c'est une lampe que j'ai faite pour une entreprise suédoise qui s'appelle Vestberg. C'est une lampe sur étau. Et donc, je l'ai pincé sur un des nombreux tuyaux qui animent ma cuisine, pour mettre en valeur la verticalité des tuyaux.
Alors, où est-ce qu'on va, là?
Alors là, on va dans mon salon.
Dans votre salon. Et ça, on va quoi?
Alors, mon salon.
Il n'y a pas beaucoup d'objets.
Non, faut pas qu'il y ait trop d'objets non plus.
Et ça, c'est le canapé que vous avez. C'est un de vos canapés?
Oui, Ruché.
C'est, Ruché
Oui, mon best-seller. Ça, c'est la version basse.
Comment vous avez eu l'idée de ce canapé?
Je voulais quelque chose qui soit léger, parce que j'avais déjà dessiné un canapé pour Ligne Rosée, qui était ce qu'on appelle un tout mousse, c'est-à-dire un canapé sculpté dans un bloc de mousse avec le pied qui est en fait de la mousse. Donc je voulais un canapé qui soit haut sur pied, des pieds fins, pour qu'il y ait de l'air en dessous, des volumes aériens, parce que je trouve ça extrêmement important d'avoir de l'air, d'avoir des volumes vides pour les yeux. C'est pour ça que c'est pas chargé non plus ici.
Qu'est-ce qui vous intéressait quand vous étiez enfant?
Certainement les animaux et le dessin.
Le dessin, tout de suite?
Bien sûr. Pas forcément, vous faites ce que font vos parents, s'ils sont pas chirurgiens. Il n'était même pas question que ça m'intéresse ou pas, c'était évident.
Mais vous avez commencé à fabriquer des objets aussi assez vite, non?
Oui, mais j'étais très manuelle. Je me souviens d'avoir un jour décidé de faire du tissage. Ça, c'est toujours à Saint-Tropez, hein. Des activités pas tellement tropéziennes. Hein. J'avais vu qu'il y avait une source d'argile, enfin, je sais pas si, juste au bout de notre jardin. Donc, je ramassais de l'argile et puis je le pressais et j'imprimais des silhouettes de feuilles dedans. Je faisais des boîtes, je faisais des sculptures, je faisais des cendriers. Je faisais des objets usuels pour ma mère. Je faisais des boîtes pour ranger ses encres de Chine. Comme elle jouait aux cartes, je lui ai fait un jeu de cartes. Je comprenais pas pourquoi elle l'utilisait pas. Voilà, je faisais des cendriers avec des têtes de chiens. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Entre 8 ans et 12 ans, je faisais beaucoup de piano et je devais devenir pianiste jusqu'à ce que je décide d'arrêter à 12 ans. Donc ça, j'ai une grosse période Mozart, je connaissais la vie de Mozart par cœur.
Vous vouliez être pianiste ?
Je voulais un peu, parce qu'on me le proposait beaucoup. mon père aurait voulu avoir fait de la musique, il aurait voulu être musicien, donc il avait un peu décidé que je serais pianiste. Donc je connaissais la vie de Mozart par cœur, de Chopin, de Beethoven... Voilà, je connaissais tout ça, je représentais beaucoup de pianos, je dessinais beaucoup de pianos, je dessinais beaucoup de... Voilà, je composais, je faisais des petites compositions.
Et puis à 12 ans, non, stop.
À 12 ans, j'ai décidé d'arrêter, parce que j'étais sûre que je ne me voyais pas du tout comme une grande future pianiste, je me voyais terminer seule comme ma prof de piano, vieille fille, à vivre dans un petit deux pièces avec sa mère.
C'est la pianiste, quoi. Ouais.
Je sais pas, c'est la seule que je connaissais, donc...
Non, mais il y a dans le film, c'est un peu comme ça. Mais oui,
Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que j'étais sûre que je finirais comme ça.
C'est là que vous avez commencé à aller plus aux puces et tout ça ?
J'ai commencé à aller aux puces en troisième, quand là, j'ai compris que vraiment le sexe masculin m'attirait, qu'il fallait faire des efforts.
Et les puces, c'était lié avec ça aussi ?
Ah bah oui, c'était pour acheter des vêtements, pour... voilà. J'allais à toutes les puces, Vanves, Clignancourt, Montreuil.
C'était quoi votre style à l'adolescence ?
Ah, je voulais être rétro. Alors, je me souviens très bien d'une jupe, une jupe crayon imprimée Prince de Galles, que je m'étais achetée. Et ma mère m'a dit que ça faisait très Lorraine Bacall, donc j'étais très contente.
Et à cette époque-là, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez faire dans la
vie ? Non, pas du tout. Après, j'étais dans un lycée hyper favorisé, où la majorité des gens faisaient soit HEC, soit Sciences Po. Donc moi, je me disais, je vais faire Sciences Po parce qu'il y a un jardin. ce qui n'est pas une bonne raison. Donc j'ai pas du tout fait Sciences Po, même pas essayé. Puis après, je me suis dit que peut-être je pourrais faire les arts déco, parce que je commençais à voir que ce qui m'intéressait, c'était les objets, mais je ne savais pas comment s'appelait ce métier.
Et alors, du coup, vous avez commencé à faire une prépa art déco, mais vous avez assez vite arrêté.
J'ai arrêté au bout d'un trimestre.
Donc après, vous avez fait l'ANSI, donc l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris.
Alors, j'ai énormément appris, parce qu'il y avait plein d'ateliers. Il y avait atelier métal, atelier bois, atelier plastique, atelier maquette. Moi, je ne viens pas du tout d'une famille où il y en a une culture technique. Et c'est important, la culture technique, quand on veut être designer. Et donc là, j'ai vraiment appris à utiliser des machines à bois, des machines à métal, des tours de fraiseuses, soudées, mettre en forme, thermoformer, mouler. Et ça permet de comprendre les limitations données par toutes les machines dans l'industrie. Toutes les techniques industrielles ont des limites et des contraintes. Ça, c'était très intéressant et c'était une manière de mettre... créer de manière réaliste des objets.
Après, vous allez faire un stage qui va être important chez Mark Newson ?
Très, très. Parce que j'étais chargée de développer un objet très particulier qu'il avait dessiné pour les Trois Suisses. Et j'ai appris avec ça la nécessité de maîtriser tout le système de fabrication de A à Z quand on est designer. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe et qui va modifier votre objet. C'est un travail très terre-à-terre. Il faut être très terre-à-terre. C'est-à-dire qu'on est confronté à des problèmes matériels, avec des matériaux et des problèmes de matériel.
Et en 96, ensuite, vous êtes resté 2 années chez André Putman, qui faisait de l'architecture intérieure.
Ouais. Au début, quand j'ai travaillé avec André Putman, j'étais sa seule employée. Elle s'était associée avec Elliot Barnes. Et donc, au début, j'étais toute seule et elle m'avait embauchée pour travailler à une exposition qui s'appelait « À propos du luxe ». Organisé par Renault. Il fallait que je trouve des objets, Donc ça, c'était assez amusant dans le sens où André, elle n'avait pas une vision caricaturale du luxe. Elle n'allait pas vous dire que le luxe, c'était les diamants et l'or. C'était plus une idée de la qualité, de la rareté. Bon. Donc ça, c'était amusant. Et puis, je l'aimais beaucoup, André Putman, parce que c'était vraiment quelqu'un avec un esprit hyper original. Elle était très loufoque, très drôle. Et après, mais tout de suite, son agence a pris une énorme ampleur. On s'est retrouvés à 15. Et il y avait surtout de l'archi intérieur. Moi, j'en faisais pas, mais ça m'intéressait pas. Et...
C'est pas votre truc du tout.
Non, parce que l'archi intérieur, c'est plus comment vous allez faire un projet avec une manière et une solution. Et un choix. Alors que le design industriel ou para-industriel, c'est plus comment vous allez, d'une idée, trouver le moyen de le reproduire. Et de faire que ça soit produit industriellement. Et l'archi intérieur, c'est plus l'idée de déplacer des cloisons et de dire là, je mets ce carrelage là. Là, apporte-moi le catalogue de poignées de porte, laquelle on prend. Ah ben, on prend celle-là. C'est plus un ensemble de choix d'habillage, si je caricature, qui ne m'intéresse pas.
Ensuite, vous partez à la Villa Médicis pendant une année. Et alors vous dites, l'Italie, c'est vraiment, c'est le pays qui vous... Enfin, vous collaborez d'ailleurs beaucoup encore avec l'Italie, c'est la patrie du design, par excellence, par rapport à la France, en tout
oui,
cas.
Oui, par rapport à la France, bien sûr, par rapport au rapport des industriels avec les designers, où pour un industriel, c'est normal de faire appel à un designer pour dessiner des objets qui vont être produits, alors qu'en France, on en est plus à une entreprise qui va faire appel à un designer... pour un événement particulier, par exemple les 10 ans de la marque. Voilà, on va faire un habillage de folie pour les 10 ans de la marque. C'est plus de l'événementiel. C'est pas la même démarche. Maintenant, ça change un peu. Là, je travaille de plus en plus avec des entreprises françaises. Mais c'est... y a plein d'objets qu'on peut pas faire en France. On peut pas faire de carrelage en France. On peut pas faire de poignée de porte. On peut pas faire de luminaire industriel ou très très peu. Ou très technique. On ne peut pas faire de couvert en France. En France, vous avez surtout le luxe. Le luxe, je trouve le monde du luxe... Enfin, je trouve ça triste que la France soit résumée au monde du luxe. Et justement, je trouve que l'Italie a un rapport plus affirmé avec les objets du quotidien que la France. C'est ça qui me...
C'est-à-dire que l'idée de qualité n'est pas forcément liée à celle du luxe, comme
voilà.
En France.
Mmh.
Et en Italie, ça va être que l'objet est très bien pensé, mais c'est un objet sériel du quotidien, des choses comme ça, c'est
oui.
Ça qui vous parle davantage?
Oui, ça me parle davantage, et souvent je fais cette comparaison, c'est exactement comme la gastronomie, enfin, entre ouais. La nourriture italienne et la française. La nourriture française, ça va être la haute gastronomie, et l'Italie, ça va être les pâtes, la pizza, voilà... Eh ben, je préfère peut-être les pâtes et la pizza.
M. Le goût de M.
À partir de 2000, vous commencez à travailler en tant qu'indépendante. Vous faites vos premiers prototypes. Vous commencez à avoir des objets qui sont édités,
ouais.
À affirmer un peu votre bazar d'objets. Alors, y a
plein de... bazar d'objets. Ouais.
Au début, il y a une c'est pas vraiment une étagère, un module de rangement avec des fibres synthétiques qui ressemblent à des cheveux comme ça.
Ouais.
J'ai vu ça en photo. Il y a des lampes. Vous avez fait beaucoup de lampes. Vous aimez
ouais.
Beaucoup les lampes,
ouais.
Non? Les canapés qu'on connaît chez Ligne Rosée, comme Ruchet, Moelle. Il y a aussi chez Haï aussi, il y a des canapés. Voilà, si je vous demande un peu si vous pensez, vous, dans votre tête, à ce bazar, à tous ces objets que vous avez créés, il y en a plein. Est-ce qu'ils ont un goût commun? Est-ce qu'ils ont un style commun? Est-ce que...
Je pense qu'ils ont un style commun dans le sens où j'aime bien que ce soit des objets pas monolithiques et qu'ils soient contrastés, qu'il y ait de la courbe et de la ligne, du rond et du carré, qu'ils soient plutôt légers. C'est ce que j'essaye de faire. Ouais, qu'ils aient une certaine gaieté ou légèreté, mais surtout qu'ils ne soient pas gaguesques.
Ouais, vous dites les objets drôles, je n'aime pas du tout ça.
Non, je n'aime pas du tout. Je préfère qu'ils aient une présence un peu étrange, un peu comme un œuf dur en pierre, que comme un vrai œuf dur.
Mais il y a une simplicité quand même.
Alors oui, une simplicité, mais Pas de minimalisme, j'aime pas du tout non plus.
Non ?
Non. J'aime pas ce qui est très dépouillé, j'aime pas ce qui est très minimaliste. C'est l'assurance bon goût.
La fausse assurance bon goût.
Parce qu'on peut pas critiquer, évidemment. C'est tellement minimaliste, tellement simple. Oh, vous avez été à l'essentiel. C'est pur. Même moi, j'ai pas envie de faire des trucs purs. Je pense que de trouver un nouveau style, c'est très difficile. Et ça, c'était extrêmement dévalorisé quand j'étais étudiante. Juste faire un objet pour le style, c'était quasiment honteux. C'était considéré comme facile.
Si vous me parlez de la lampe Hill, qui est un petit objet que vous avez fait, c'est une lampe qui se pince, voilà, oui. Qu'on pince sur le bord d'un bureau ou on veut, sur une étagère. Alors cette lampe, par exemple, est-ce que vous voulez m'expliquer sa conception, enfin si vous la trouvez caractéristique de votre travail ?
Ah oui, alors elle est caractéristique dans le sens où, précisément, elle regroupe un petit peu tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les lampes, les objets articulés et les objets légers, petits, versatiles. Puisqu'on peut la pincer, la poser ou l'accrocher.
Oui.
Et orienter sa lumière avec son réflecteur qui coulisse sur une bille aimantée.
Pourquoi vous aimez tant designer des lampes ?
Parce que c'est un objet, c'est une typologie qui offre une grande variété dimensionnelle. Vous pouvez faire des énormes lampes comme pour illuminer une gare ou des toutes petites lampes d'appoint. Alors que quand vous êtes dans la typologie du siège, vous pouvez faire d'accord une chaise ou alors un canapé 6 places, mais on reste toujours dans un même univers qui est confronté au corps, qui reste plus ou moins le même. Donc je trouve qu'il y a une plus grande variété de liberté quand on dessine des lampes.
Un canapé, par exemple, c'est difficile à concevoir ?
Alors moi, je trouve que c'est parmi les choses les plus difficiles et les plus ennuyeuses. Je déteste faire ça.
C'est vrai ?
Oui, vraiment, je déteste. C'est extrêmement pénible, c'est lourd, c'est un objet qu'on ne va visualiser dans ses volumes que lors du premier prototype qui sera fait par l'entreprise, puisque faire un prototype soi-même de canapé échelle 1, c'est très difficile. Et donc le premier prototype, c'est toujours un objet informe, trop gros, dans lequel il va falloir tailler.
Donc c'est quoi ? C'est des années ?
De toute façon, les projets, c'est en général 2-3 ans.
Le temps du design, c'est un temps très long.
C'est très très long. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt dans cet objet, pour moi, pour que j'ai envie de m'y pencher, parce que c'est beaucoup de temps de travail.
Oui, c'est ça, justement. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous y pencher ? Qu'est-ce qui vous donne envie de créer un objet ?
Au départ, parce qu'on me le demande. Si on me le demande, je vais essayer de m'y intéresser. Il faut que je m'y intéresse. À la base, je ne m'y intéresse pas du tout. Tant que je ne m'y suis pas plongée, ça ne m'intéresse pas. J'ai plein d'autres choses à faire qui m'intéressent plus pour éviter de me confronter à la difficulté pour moi de faire un objet.
Oui, c'est une lutte quand même.
Oui, c'est beaucoup de lutte.
Donc ce n'est pas du pur plaisir votre travail ?
Non,
c'est
pas
ça.
C'est
pas du tout ça.
Non, pas du tout. Pas du tout, non. C'est beaucoup, beaucoup de recherches difficiles où je m'en sors pas.
Et comment vous réfléchissez ?
En dessinant. Quand je dessine un objet, je pense aussi à sa conception. Je pense aussi à comment il va être monté, démontable, présenté, comment on va changer l'ampoule ou pas, c'est un exemple, ou comment il va être vendu à plat, comment il va être joli, pas joli, comment cette pièce va venir sur une autre, être fixée. Donc c'est toujours... c'est pas d'abord une idée pour laquelle je vais essayer de résoudre les problèmes. C'est tout en même temps.
Mais vous pensez à qui il s'adresse ou pas ?
Alors, je pense toujours à qui il s'adresse, c'est-à-dire à quelqu'un. À quelqu'un qui est un homme ou une femme ou un enfant, enfin, ça dépend quel objet, bien sûr,
ouais.
Et qui va le manipuler, voilà. Ni jeune ni vieux, ou jeune et vieux. Il faut que ce soit pour des jeunes et des vieux.
Vous, au départ, ce qui vous plaisait, c'était vraiment les objets du quotidien, les objets des quincailleries, les objets des drogueries, c'est ça ?
Oui. Oui, oui, c'était ça.
C'est ça qui vous a un peu donné envie de faire ça ?
Oh ça et les puces.
Ça et les puces, oui.
Bien sûr.
Ouais.
Ça m'a donné envie parce que, en fait, aux puces, on voit les vies passer. Pour moi, ce n'est pas du tout triste. Hein. Au contraire, je trouve ça très amusant. Je trouve très amusant de s'apercevoir que la normalité est quelque chose de très fugitif. Alors que la normalité, on a l'impression que c'est ancré pour toujours. Et donc, aux puces, on voit des objets qui ont fait partie d'une normalité et qui sont devenus, au fur et à mesure du temps, totalement anormaux. Parce qu'on ne les utiliserait plus, on n'en a plus l'usage, On trouverait ça absurde de les utiliser ou juste démodés. C'est ça que j'aime bien, c'est de, ça remet en cause tout ce qu'on croit être juste beau à un moment ou utile à un moment, moderne.
Justement, de relativiser aussi la notion de goût.
Oui, et qui est liée à une apparition, une répétition. Donc une répétition qui va créer une habitude, et une habitude, ça va créer une lassitude. Et cette lassitude, elle ne se répand pas toujours de la même manière auprès des gens.
Le moment où un objet devient désuet ?
Oui, puis la désuétude, il y a aussi une notion de charme. C'est pas uniquement l'obsolescence, c'est pas uniquement le démodé.
Et c'est quelque chose que vous aimez ?
Ça peut me toucher, mais je ne veux surtout pas faire des objets désuets. Ça m'intéresse pas du tout, pas du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comme on peut aimer quelque chose alors qu'on l'a détesté avant, quand c'était sa période de domination sur le marché. Et qu'après, on va se dire, c'était pas si mal, en fait.
Donc l'aimer après.
L'aimer après, ouais. Ne plus le trouver moche.
Vous trouvez, il y a beaucoup de choses que vous trouvez moches.
Oh, évidemment.
C'est quoi moche pour vous ?
C'est sans ampleur, dicté par des petites lois compressées les unes contre les autres. Qu'est-ce qui est moche, ce qui est lourd aussi.
Tout à l'heure, on a parlé un peu de votre parcours, tout ça, mais vous avez parlé des objets que vous fabriquez, des puces, enfin tout ça comme chose qui vous avait influencé. Est-ce qu'il y a eu pour vous des designers, justement, que vous avez aimés, qui ont été importants, en fait, des choses qui vous ont influencé ?
Jusqu'à l'âge de 18 ans, je pense que je ne connaissais aucun nom de designer. C'était pas du tout dans la culture de mon milieu. Parce qu'on croit toujours que Charlotte Perriand était une star depuis toujours, mais pas du tout. C'était une star dans des tout petits milieux de marchands qui connaissaient Perriand, Prouvé. Mais moi, dans mon milieu, qui est quand même hyper favorisé, personne n'en parlait, personne ne les connaissait. C'est venu après.
Ah oui ?
Oui. Donc, je connaissais absolument aucun designer. J'ai été, par contre, chez ma mère, où tout était ancien, il venait des puces. Il y avait deux lampes que j'adorais, qui me fascinaient, et que j'ai découvert, mais très très longtemps après, je ne sais pas, quand je devais avoir 30 ans, que c'était de Vico Magistretti, la lampe Eclisse. Alors, pourquoi j'ai découvert aussi tard ? Parce que déjà, je n'ai aucune culture dans le design. Je n'ai pas été à mes cours d'histoire du design, qui étaient pourtant géniaux par un historien du design qui était un type formidable. Bien sûr, son nom m'échappe, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Mais je n'aimais pas l'idée de suivre des cours d'histoire du design. J'avais peur d'être trop influencée. Donc, c'est pour ça que j'ai dû découvrir très très tard dans un magazine que la lampe Eclisse était de Vico Magistretti. Donc après, j'ai découvert le travail et c'est un de mes designers préférés. Ce sont plus des systèmes qui m'ont influencée. Par exemple, les lampes montées-baisse avec le contrepoids en porcelaine. Oh, je trouvais ça génial. C'est des systèmes qui m'ont impressionnée et qui m'ont fait m'intéresser aux objets et au fait qu'ils aient été conçus et pensés.
Mais par exemple, Magistretti, qu'est-ce qui vous plaît chez lui dans ce qu'il fait, je peux dire ?
Ben, une simplicité pas simpliste et différente. Une simplicité remarquable. Pas la simplicité passe-partout qui m'emmerde. Qui vous fait la morale. Oui, je suis simple. Voilà. Non. Je pense que c'est ça.
Le goût de M.
Alors, quoi il ressemble cet atelier ?
J'aurais jamais pensé pouvoir avoir un atelier comme ça. Il est très grand, il est très beau, très bourré de trucs.
Vous travaillez là-dessus ?
Ça, c'est des cocottes, ouais. Je travaille pour une entreprise française qui s'appelle Revol.
Dans la Drôme ?
Tout à fait. Et ça va sortir en septembre prochain. C'est une collection de cocottes.
C'est... Et ici, c'est quoi ? C'est des choses sur lesquelles vous travaillez ?
Vous voyez, là, il y a des maquettes en carton de table qui reprennent le même système que cette étagère qui, elle, est une vraie étagère en bois. Là, c'est des housses de couette que j'ai dessinées pour Itala, une entreprise finlandaise. Le rayon bricolage, si on peut dire, avec tout le matériel pour faire des maquettes. Étau, une petite scie, une scie circulaire, perceuse.
Des perles, du fil à broder, des œillets.
Des catadioptres. Bah oui, c'est hyper important que ça soit étiqueté, parce que je déteste ranger, et donc si c'est pas étiqueté, je fous tout n'importe où.
Là, c'est votre bureau ?
Il est bien rangé.
Bah ouais, hyper bien.
Ça, c'est notre imprimante 3D. On prototype pas tout, on prototype surtout des petits éléments techniques, mais c'est plus du domaine de l'objet que du mobilier.
Inga Sampé, on est chez vous. Alors, quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent ?
Ah bah, c'est très important. C'est très important, mais dans... avec des règles assez floues aussi. Hein. C'est pas, on n'est pas ici dans un appartement où tout est parfait, où tout est pur et pensé. Y a pas mal d'accidents, de ratages. Mais il faut pas qu'un objet me dérange. S'il me dérange...
C'est quoi qui vous dérange ? Comment il peut vous déranger, un objet ?
Je vais le trouver moche. C'est tout. Ou un volume. Dans une pièce, si les volumes sont pas bien... si les vides sont pas suffisants, ça va me gêner.
Donc vous les choisissez avec soin ?
Oui, bien sûr, je choisis les objets avec soin. Et en plus, comme la plupart, je les ai dessinés, oui. Enfin, pas tous, hein, bien sûr, mais...
Et les vêtements, c'est important pour vous ?
Bien sûr, oui, très.
Vous aimez quoi comme type de vêtements ?
J'aime bien quand c'est un peu structuré, j'ai horreur du mou.
Ah ouais ?
J'adore la couleur, j'aime le vert. J'aime ce qui est assez gai, j'aime que ça soit un peu différent, j'aime que ça soit féminin. Je peux aussi être habillée en pantalon, à plat et sans rien de spécialement féminin. Hein. Je suis pas stricte non plus. Je sais pas dire ce que j'aime, je peux plus dire ce que j'aime pas. Mmh. Je déteste ce qui est bab.
Pourquoi ?
Je pense des mauvais souvenirs. Vous savez, les années 70, c'était très marqué. C'était très mou. C'était très caricatural. J'aime pas non plus les objets des années 70. C'est difficile pour moi.
Alors, est-ce que vous êtes perméable au goût de l'époque, vous pensez ?
Qui ne l'est pas ? Parce que bien sûr que je ne veux pas l'être.
Oui, ça c'est...
Je ne veux pas l'être, mais on l'est forcément. Forcément. C'est impossible de ne pas être un tout petit peu imprégné de son époque. C'est pour ça que pour moi c'est important de vivre dans une grande ville. C'est parce qu'on a une éducation automatique de l'œil. Juste en regardant les gens dans la rue et en passant devant les magasins. Et il faut une grande diversité et ça vous éduque. Enfin, ça ne vous éduque pas. Non pas que ça vous élève.
Ça vous informe.
Voilà, c'est de l'information. Mmh. C'est de l'information sur ce qui est rare, ce qui est commun, ce qui maintenant commence à faire tarte, sur ce qui est trop commun, ce qui est trop banal, ce qui est trop...
Ce qui va devenir démodé, on le sent vite, en regardant dans la rue.
Ouais. Ouais. Oui, et puis aussi, dans une grande ville, comme Paris, qui est quand même très grand, j'ai toujours l'occasion de me balader dans des quartiers que je connais pas ou que j'ai oublié, et je vais voir des détails qui vont m'intéresser. Et c'est, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper gai.
Mais vous parlez d'architecture, vous parlez de tout,
je parle
des vêtements,
de tout. Ouais. Oui, c'est ça qui me plaît.
Et c'est plus ça qui vous inspire, enfin voilà, le quotidien au sens large, quoi, vraiment, parce que là, c'est tout ce qu'on voit dans la ville, par exemple, plus que, je sais pas, la musique, le cinéma, la littérature. Ou ça, c'est important pour vous aussi ?
Ah, c'est très important, mais ouais. ça me donne pas des idées. Ça m'aide pas à dessiner des objets.
Peut-être ?
Non. Non, vraiment pas, je crois pas. Enfin, moi, non. Moi, pas du tout. J'adorerais être comme ça, dire « Oh, j'ai lu Lolita, bah tiens, j'ai super envie de dessiner une fourchette. » Non.
C'est dit comme ça ?
Bah oui, non, c'est pas du tout. Moi, ça marche pas du tout comme ça. Et pourtant, c'est mon livre préféré.
Pourquoi il vous plaît, ce livre ?
Parce qu'il est tout aussi. C'est drôle, c'est triste, c'est dramatique, c'est imagé. Les personnages sont tous hyper travaillés. C'est un univers hyper complet. C'est une langue étonnante.
Vous êtes intransigeante un peu dans vos goûts ?
Moi, je suis hyper intransigeante.
Mais alors, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'ils trouvent grâce à vos yeux? Comme par exemple, vous parlez de cinéma.
Oui, bah justement, là, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Mais en fait, vous voyez, j'ai plus cette culture de cinéma. Là, c'est plus du binge cinéma maintenant. Vous voyez, vous savez pas choisir le film, vous avez trop de choix, vous regardez un truc. Puis en fait, c'est... voilà. C'est plus comme avant. Avant, j'étais cinéphile, maintenant, je le suis plus. Maintenant, je m'intéresse. Parce qu'en fait, je me mets toujours à la place des acteurs, du réalisateur, et du décorateur.
Vous vous mettez dans la fabrication, quoi.
Ouais. Je me dis, oh là là, je suis contente de ne pas avoir été en charge de faire les décors, là. Oh là là, je suis contente, là, je regardais un film de Clapiche hier, je me dis, oh là là, je suis contente de ne pas avoir eu à signer, demander les autorisations de tournage dans New York. Enfin, moi, je vois tous les problèmes un peu comme dans les objets. Parce que je trouve que le design et le cinéma ont beaucoup en commun, dans le sens où ce sont un art et une industrie en même temps, et qu'on dépend des moyens financiers de quelqu'un d'autre. Donc des producteurs ou des entreprises.
Mais alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous provoquent des émotions ou des chocs esthétiques?
Oui. Alors, j'ai été visiter il y a 3-4 ans une entreprise dans le nord de la France, une vieille entreprise textile, qui était la dernière entreprise à fabriquer des tapis, mais du tapis d'escalier, donc c'est-à-dire des machines étroites. Je suis arrivée dans une petite banlieue de Roubaix, dans une petite maison où on est rentré, et dans le bureau, il y avait plein de dossiers empilés, comme dans un décor de Maigret. Et ensuite, on a descendu quelques marches, et là, on est arrivé dans l'entreprise qui n'avait pas changé depuis le 19e siècle, avec des machines du 19e. Et leur seul et dernier employé, qui était le seul à maîtriser ces machines, encore dans un boucan infernal. Et là, j'ai failli pleurer. C'était tellement émouvant, parce que c'était aussi toute l'histoire textile, de tous les ouvriers textiles, dans des conditions de travail extrêmement difficiles, qui ont aussi permis l'essor de la France. Et ce savoir industriel, ces brevets, ces machines d'une ingéniosité incroyable, avec tous ces fils qui passent à travers tout le hangar, qui sont dirigés, qui repassent dans chacun des petits anneaux pour être guidés, ces mouvements de navettes. Ouais, là, c'était vraiment un choc vraiment très fort.
Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup changé ou pas?
Je suis un tout petit peu plus ouverte d'esprit.
Ouais. Mais sinon, vous aimez un peu toujours les mêmes choses?
Je suis un peu moins fermée aux choses modernes, récentes, que je ne l'étais enfant. Mais non, j'ai pas tellement évolué, je crois. Enfin, en fait, à la base, je suis fermée. Je me considère comme quelqu'un d'hyper fermé, mais tout à fait capable de s'ouvrir. C'est-à-dire qu'à la base, je suis contre... Mais si on m'explique, si cette personne est intelligente, enfin dans sa manière de me l'expliquer, ou je la juge intelligente bien sûr, eh ben je vais pouvoir être pour. Mais je suis un peu un Bernard l'ermite, du goût, qui se déplace assez lentement. Voilà.
M. Le goût de M.
Quel type de goût vous plaise à vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas?
Alors, ce que j'aime pas, c'est les fromages bleus. Sinon, j'adore les légumes. J'adore, bon, évidemment, les pâtes. J'aime la cuisine de brasserie. Ça, j'adore ça. J'adore les assiettes qui sont bien remplies, où il n'y a pas de chichi, c'est clair, on n'a pas besoin d'explication. Il n'y a pas de dressage, de petites herbes en équilibre. Ça m'ennuie profondément. J'aime les endives au jambon. Et j'adore les desserts. J'adore les glaces. J'adore les soupes.
Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût?
Je ne les choisis pas pour ça, en tous les cas. Mes amis ont du goût. Non, je ne les choisis pas pour ça. Je les choisis parce qu'ils ont du cœur. Après, je vais trouver qu'ils ont un goût de chiotte pour des films, par exemple. Voilà. Mais comme ils ont du cœur, ça va passer.
Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût?
Oui, je vis avec quelqu'un dont j'aime pas les goûts musicaux. Je m'en moque terriblement. J'adore Leonard Cohen. Pour moi, Leonard Cohen, la première fois que j'ai entendu, je croyais que c'était un sketch. J'ai éclaté de rire. Je trouve ça tellement drôle, cette voix caverneuse.
Et donc, vous n'aimez pas du tout ses goûts musicaux? Mais c'est pas un problème, ça.
Ah bah si, quand il les met, si. Ah bah si, c'est un problème. Ça me dérange.
Ça vous dérange?
Ah mais moi, tout me dérange. Les odeurs me dérangent, les lumières me dérangent, le son me dérange, tout me dérange. Moi, les basses me dérangent, les odeurs me dérangent profondément, le graillon, la pisse. C'est vraiment une souffrance, quoi.
Genre, ce serait quoi, avoir du goût pour vous?
Avoir du goût, c'est... c'est forcément... aimer quelque chose sincèrement, pas parce que c'est la tendance, évidemment, c'est l'aimer malgré la morale. Donc, ce serait ça, avoir du goût, ce serait de faire fi de cette morale, mais c'est peut-être même pas forcément possible, toujours.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le Goût de M est produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.